Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Ratti, là, tu la, la baraque et puis Marquitos.
Clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'after, tout le monde, en direct sur RMC, 7 jours sur 7, jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. L'équipe ce soir, Kevin Diaz est resté.
Salut à tous.
Et Lionel Charbonnier va nous rejoindre dans quelques instants. Ça capte pas très bien. Il trouve un meilleur endroit là dans la voiture et il nous rejoint en direct sur RMC. Au programme ce soir les gars, débrief et analyse du match nul entre Montpellier et Lens ce soir, un but partout, supporters montpelliérains, Lensois, 32-16, on vous attend et on débrief dans un instant ce match qui laisse les Lensois hors du podium désormais, malgré le fait que Marseille et Monaco n'aient pas encore joué. On va revenir également sur la victoire de Lyon à Angers 3-1 cet après-midi, une victoire mais encore beaucoup de questions pour les Lyonnais après la prestation, 32-16, on vous attend supporters lyonnais pour débriefer cette victoire. Et puis à partir de 23h30, Marseille Paris Saint-Germain J-1 avant le choc de demain entre les deux premiers de Ligue 1. On vous donne ce soir nos dernières informations autour de Christophe Galtier et d'un éventuel remplaçant. Et puis débat tactique, Tudor doit-il faire du Tudor demain face au Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain de Mbappé, qui n'était pas là la dernière fois.
Ça change tout.
Et ça change tout. Marseillais parisien, on vous attend ce soir au 32-16. Et puis les drôles de dames dans le dernier quart d'heure. Julien Laurent sera là pour la course au titre en Angleterre. Arsenal et Manchester City ont gagné aujourd'hui. Fred Hermel sera là, le derby madrilène. Pas de vainqueur entre les deux. Alors pas de vainqueur entre le Real et l'Atletico, mais un vainqueur quelque part, c'est le Barça qui s'envole et qui peut encore plus s'envoler demain. Au classement, un coup d'œil justement sur les directs du soir à l'étranger. Liverpool n'a pas réussi à battre Crystal Palace ce soir en Première Ligue, 0-0. Sassuolo a gagné à Lecce en Italie, 1-0. En Espagne, Valence a battu la Real Sociedad, 1-0. Et puis au Portugal, il reste 20 minutes entre Vizela et Benfica. Et c'est Benfica qui mène 1-0. Voilà le programme, les gars. Surtout ces sujets, on vous attend. Le 32-16, n'hésitez pas, vous nous appelez et vous venez débattre avec l'after, avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier. Adrien est là au standard. Vous commentez l'émission sur Twitter également, le hashtag RMC Live ou sur les applis RMC, RMC Sport, le Direct Studio. Et je vous lis, 23h sur RMC, Lionel Charbonnier est là. Salut mon Lio.
Salut Thibaut, salut à tous.
On t'entend parfaitement bien. Tiens, raconte-nous là, on ferme les yeux. T'es où exactement pour que ça capte là, Lio?
Je suis à Royan.
T'as trouvé
à Auxerre, ça captait pas.
Ouais, c'est ça.
Ouais, non, à Auxerre, ça captait pas. Et il a fallu que j'aille à Royan pour avoir une bonne. Non, je suis avec ma fille fait un international et voilà, je l'accompagne. C'est moi qui la coche. Donc, voilà.
Ah oui, parce que pour faire Auxerre-Royan en voiture, à part être à côté de Jérôme Rotten dans la voiture. Je sais pas comment.
Ouais, mais je vais pas à côté de Jérôme, t'es fou quoi.
Allez, il est 23h, vous êtes sur RMC, c'est l'after. Et comme tous les soirs de match, on démarre tout de suite par le plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ouais,
ouais. Les 3 points de Kevin et Lionel ce soir. Vas-y, Lio, pour commencer.
Bah écoute, moi mon premier point, c'est enfin les Lyonnais ressortent la tête de l'eau. Bon, ils sont capables du pire comme du meilleur. Ils sont capables même de se faire peur pendant un match. Mais bon, ils avaient connu cette petite embellie de 4 matchs sans défaite. Et puis il y avait eu cet arrêt qui était évident à la JOCR. Ça, je m'en doutais que ça allait se passer comme ça. Mais par contre, il a fallu redresser la tête. Ils l'ont bien fait. Malgré les absents. Ensuite, les Lensois, toujours à la peine. Ils doivent se réinventer et Montpellier a su en profiter. Et puis en 3, écoute, ce soir, j'ai pas de.
Eh ben écoute, c'est pas grave. Hommage à Roland Courbis. L'important, c'est les 2 points ce soir. Kevin. Et 3 points.
Moi, je vais rester sur la victoire à 3 points. Le coach connaît mon avis là-dessus. En premier point, c'est quand même le Racing Club de Lens qui va peut-être s'en vouloir parce que, au vu du week-end qui s'annonce, ils avaient quand même une belle opportunité de mettre la pression sur leurs 3 concurrents. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à faire ce break et ils ont finalement perdu 2 points. En deux, bah, c'est Montpellier. Montpellier qui arrache par contre un très bon point. Alors, ils n'ont rien fait d'exceptionnel ce soir, à part avoir marqué un très beau but. Mais en tout cas, ils ont réussi à prendre un point face à une belle équipe de Lens. Et en trois, bah, c'est quand même le classico de demain. Hein, ça s'approche. 24 heures.
Ouais, j'aurais pu mettre ça en 3. Ouais.
24 heures avant le match de la saison en France et surtout en Ligue 1.
AOM Paris Saint-Germain, il en sera question d'ici une demi-heure. On vous attend ce soir, Marseillais, Parisiens, Lyonnais, le 32-16 et bien sûr, Lensois et Montpellier. Pour commencer, je vous lis sur le direct studio. Je vois Anthony présent, bonne émission les mecs. Il y a Bruno qui commente sur Paris. Paris doit surtout se débarrasser de Galtier. Bref, vous êtes là sur le direct studio, vous êtes là également au 32-16.
Tu dis ça comme ça, toi. Paris doit surtout se débarrasser de Galtier.
Je lis quelques messages qui tombent. Non, qu'est-ce que...
Tu as donné les news en bref, là, comme ça.
Non, des petits messages qui passent comme ça. Je vous lis. Et surtout, je vous accueille au 32-16. Il y a Daniel qui nous a appelé, les supporters lensois. Salut Daniel.
Bonsoir, vous allez bien?
Salut Daniel.
Et toi Daniel, comment ça va?
Non. J'ai eu un peu d'espoir, un peu de bonheur contre Nantes la semaine dernière. Et aujourd'hui, on marque à la 5e minute. Je me suis dit, ah, c'est bien, mais on marque très tôt. Puis après, ben, comme contre Strasbourg, contre Troyes, contre Brest, contre...
Tomber dans les travers.
Les mains dans le short, offensif. Je dirais même. Et ben, il marque, on se réveille. Puis ben, non, Fofana, depuis le seul match de bon qu'il fait de la saison, c'est contre Paris, je vais le dire. C'est bon, Fofana, il m'énerve. Il essaye toujours de partir sur son pied gauche, d'enrouler. Ça marche plus, on le sait. Tout le monde sait qu'il va faire ça.
Tu veux dire sur son pied droit ?
Il essaye des passements de jambes, des... Arrête, Fofana, quoi. Arrête. Et Sotoka, seul en pointe, pourquoi ? Pourquoi Sotoka seul en pointe ? Je comprends pas. Ça fait deux matchs qu'il fait ça. Je comprends pas pourquoi il met Sotoka.
Après, il y a les occasions quand même.
Openda. Ouais, il y a les occasions.
Il y a les occasions, il y a la barre, c'est le tournant, hein, le tournant du match, c'est cette barre.
C'est la quatrième en quatre matchs.
Bah ouais, c'est le tournant du match, parce que 30 secondes après, une minute après, il y a. Comment ?
On a des attaquants qui marquent pas. Tu regardes, les seuls mecs qui marquent, c'est les milieux et des fois les défenseurs.
Oh, je suis d'accord.
Je te trouve un peu dur quand même, Daniel. Ah, hein.
Non, mais il a raison. Ils ont beaucoup d'occasions, mais ils les mettent pas au fond.
Non, mais d'accord.
Je te trouve pas qu'il y a un peu de on marque et puis après, plus tranquille, on laisse un peu Montpellier jouer, on represse pas. Je me suis à la 5e minute. J'étais devant ma télé, je me suis dit, on a marqué trop tôt et on presse plus, ça y est, c'est main dans le short.
Quoi. Kevin te répond.
Non mais c'est jamais facile, tu joues contre une équipe qui commence avec un effet miroir, ce dont on parle régulièrement ces dernières semaines avec Thibaut le samedi soir, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui s'adapte à Lens en passant à 5 défenseurs. Derrière, Lens arrive à déjouer ce stratagème assez rapidement en ouvrant la marque, et ensuite les Montpellierains aussi haussent leur niveau de jeu. Tu sais, je sais pas si t'écoutes les afters ces dernières semaines, mais on dit souvent que, tu vois, l'OM, des fois on dit « Ah, l'OM, ils sont moins bien », ou « Ah, un tel, il est moins bien ». Ouais, mais attends, il y a aussi l'adversaire. À un moment, quand tu vois le match de Montpellier, à partir du moment où ils ont encaissé ce but, après il y a cette blessure de Estève qui leur permet de repasser à 4, et Montpellier était plutôt bien à 4 sur les deux derniers matchs. Ils ont été meilleurs. Je dis pas que Montpellier a été flamboyant. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de suffisance du côté lensois, mais les Lensois, ils sont dans un mode gestion. Ils sont pas dans leur meilleure période. Et en deuxième mi-temps, alors qu'ils sont quand même mieux rentrés, revenus des vestiaires, ils ont cette énorme occasion. Ça finit sur la barre. En expected goals, tu dois être à 0,8 sur cette occasion où Danso, il fait pas un mauvais geste, mais voilà, ça tape le bas de la barre, mais ça rentre pas. Ça ressort. Et sur l'action d'après, tu concèdes l'égalisation. T'as parlé des trois barres sur les derniers matchs. Il y a des fois ce petit phénomène un peu irrationnel dans le foot où peut-être aussi que les Lensois savent qu'ils ont une grosse semaine, donc ils se sont mis un peu plus que d'habitude en mode gestion, parce qu'ils ont un quart de finale de Coupe de France, parce que derrière ils ont un énorme derby. Mais du coup, là où je te rejoins, c'est vrai que c'est une très mauvaise opération, parce que tu avais l'opportunité de mettre la pression sur les trois de devant, sur Monaco qui va rencontrer Nice, sur le PSG et Marseille qui vont se rencontrer. Donc quoi qu'il arrive, tu allais reprendre des points sur cela. Et en plus, tu as un derby qui se profile avec Lille qui a gagné hier et qui peut se rapprocher de toi s'ils arrivent à te battre.
Tiens, je les ai, les expected goals là de ce soir. Lens, c'est 1,61 et Montpellier 0,71.
Mais c'est beaucoup, 1,61. C'est beaucoup, parce que ça veut dire quand même que cette action de Danso, elle compte forcément énormément.
Oui,
parce qu'elle est énorme.
Ce qui veut dire aussi qu'à côté, il n'y a peut-être pas eu énormément de grosses occasions finalement.
Oui,
si
oui,
tu mets 0,8 sur l'action de Danso, il te reste 0,8 pour tout le reste du match. Quoi.
Et comment ça se passe quand il y a l'arrêt de comment de Lecomte et tout de suite la barre derrière, c'est une occasion, deux occasions.
Je suis pas un spécialiste du comptage de l'expected goal, mais je pense que c'est deux occasions.
C'est deux occasions.
Ouais, c'est deux occasions.
Et Daniel, toi qui es là au 32-16, ce soir t'es sévère, c'est ton droit quand même avec cette équipe lançoise. Mais cette action dont on parle, donc la barre de Danso,
il y a celle de Sotoka aussi.
Ouais, mais avec donc l'égalisation montpelliéraine qui arrive dans la foulée, est-ce que t'aurais eu la, tu vois ce que je veux dire, à quoi ça tient? Est-ce que t'aurais eu la même analyse ce soir? Parce que si le ballon est 4 cm plus bas, ça fait 2-0.
Mais complètement, parce que comme j'ai dit,
gagner un match maîtrisé,
quoi. Il y a de la délétante, après le match contre Paris, le match contre Strasbourg, c'est pareil, c'est un peu les mains dans le short, on gagne tranquillement. Je crois qu'il y a 2-0, ils viennent à 2-1, il y a 2-2, ou c'est 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, ou un truc comme ça. Contre Brest, pareil. J'ai regardé tous les matchs et à chaque fois, on domine, on voit qu'on domine, c'est très bien, on domine, et c'est main dans le short. Ce qui m'énerve, c'est que là, à la 48e minute, je voyais déjà qu'on essayait de jouer un peu la montre, on grattait du temps. C'est pas notre ADN, quoi. Et ça fait plusieurs matchs qu'on fait ça, et à chaque fois, ça nous joue des tours, et contre Lorient en Coupe de France, ça nous a joué un tour, ça finit au pénalty. Mais j'étais limite content. Parce que je me suis dit, c'est bien fait pour notre gueule.
Kevin, après, on a joué les mains dans le short. Vous jouez les mains dans le short ou pas à l'époque? Vous jouiez les mains dans le short, vous, ou pas, Kevin?
Quand j'avais pas beaucoup de ballons, dès qu'il faisait froid, j'étais pas un
joueur excellent. Si je jouais les mains dans le short, ça allait pas le faire. Non, moi, j'avais besoin de mettre les mains dans le cambouis, au contraire, et d'y aller à fond. Mais après, Daniel, quand tu vois que dans ton équipe ce soir, t'as des joueurs qui sont titulaires qui font un bon match, mais comme Fulgini qui était à Angers, dernier de Ligue 1, et Thomasson qui était à Strasbourg qui joue la relégation, t'as pas non plus l'effectif du Paris Saint-Germain, tu vois.
Donc tu as. Mais Thomasson, il est bon, Kevin.
Je dis pas qu'ils sont pas bons. Je dis juste que je comprends ton exigence, mais cette équipe, c'est un collectif. Ils vont pas rouler sur leurs adversaires tous les week-ends. Là, ils mettent 1-0. Ils ont 2-3 occasions très franches. Malheureusement, ils ne les mettent pas parce que il y a la frappe de Sotoka, puis il y a la tête de Sotoka sur le corner qui suit, et il y a l'occasion de Danso. T'en as 3 énormes. Bon, il y a deux beaux arrêts du gardien. Une barre transversale. Derrière, tu concèdes un but et tu n'arrives pas à remarquer. Ça ne joue pas à grand chose. Sur 2-3, il y a un but refusé. Bon, normalement, moi, je pense qu'il ne faut pas être trop sévère avec cette équipe, ni avec Fofana. En tout cas, moi, c'est mon avis. Moi, je ne suis pas sévère avec eux. Ils ont le droit aussi de faire un impair de temps en temps.
Je remercie Daniel.
C'était tout. Mais je voulais demander combien de corners encore. J'ai pas la stat.
Ok, ouais. Tu nous as appelé pour l'after opta, c'est ça, ce soir.
Je vais te la donner. Vous avez 13 occasions, 19 tirs, 6 tirs cadrés,
6 corners.
Et 6 corners.
C'est pas descendu
ça. 6 corners.
Daniel.
Bon, bah merci les gars.
Non, 27 centres, ça va pas te plaire.
J'ai fait ma thérapie encore.
Ouais, ça va aller quand même, Daniel, ou pas?
Ouais, je vais.
Tu vas faire quoi là?
T'as peur pour le derby ou pas, Daniel?
Comment?
T'as peur pour le derby?
Mais ce que j'ai peur, c'est pas pour le derby, c'est pour la fin de saison. Oui, j'ai peur pour le derby, mais comme tous les derbies. Mais c'est pour la fin de saison. J'ai peur qu'on soit les cocus de l'histoire et qu'on finisse 6 ou 7e et qu'on dise « Oh mince, on a raté l'Europe à 1 ou 2 points ». Et on dit qu'il y a encore des supporters qui disent « Mais c'est pas grave, il y a 3 ans, on est en Ligue 2 ». Bah ouais, mais non, j'en ai marre.
Bon, et puis tu serais pas le premier à être le cocu de l'histoire, t'en fais pas, Daniel.
Mais on a l'habitude d'être les cocus de l'histoire, bon, allons, on a l'habitude.
Passe une bonne soirée quand même, mon Daniel, tu reviens quand tu veux.
Salut Daniel.
Salut
Daniel, bye bye. Supporter Lensois, Montpellier, on vous attend au 32-16. Lyonnais également, si vous voulez revenir sur la victoire contre Angers cet après-midi, 3-1, et puis d'ici une vingtaine de minutes, OM Paris Saint-Germain au programme, les dernières infos concernant Christophe Galtier et débat tactique ce soir. On vous attend là aussi, Marseillais Parisien, au 32-16. Alors, j'ai l'impression que ce soir, c'est une spéciale prénom de l'after, parce qu'on était avec Daniel qui nous a appelé au 32-16. Et là, on a Kevin qui est là, supporter Lensois. Salut Kevin.
Bonsoir, messieurs.
Bienvenue dans l'after, Kevin.
Alors, je peux commencer?
Oui. Bah, tiens, juste avant, si jamais tu t'appelles Gilbert ou Stéphane et que tu veux passer ce soir, n'hésite pas, tu nous appelles aussi au 32-16, ça fera une spéciale. Voilà. Vas-y, Kevin, je t'en prie. Supporter Lensois.
Ouais. Et là, vraiment, ce soir, je me sens vraiment. Je sais pas si c'est énervé ou limite.
Frustré.
Ouais, exactement. C'est-à-dire que. Je vois qu'on mène au début, voilà, très bien, on mène un super jeu et tout, on est présent partout. Et d'un seul coup, en fait, notre 3-4-3 passe en 3-5-2. C'est-à-dire qu'à un moment, Thomasson, c'était un milieu à droite. Alors, je sais bien qu'il a de la course, mais il y a un moment, c'était vraiment un truc à plat. Et là, franchement, en fait, ce qui m'énerve, c'est que, bon, chaque année, en fait, en février, on a toujours du mal. La période janvier-février, c'est toujours une galère depuis des années. Mais, enfin, je veux dire, il y a un moment, les mecs, faut aussi qu'ils... Et en fait, ce qui est dommage, c'est que au début, on mène, et en fait, on s'est rentré dedans une fois, deux fois, et après, l'équipe, elle s'effondre dans la tête. Et les Montpelliérains, en fait, ils étaient beaucoup plus énervés en revenant.
En deuxième mi-temps.
Ouais, en deuxième mi-temps. Et en fait, le truc, c'est que je me dis, mais ils peuvent pas faire le boulot jusqu'au bout. Ils sont, mais je sais pas, ils ont chopé de l'eczéma, ils sont pas bien, ils dorment mal ou.
Là où je comprends ta frustration, Kevin, c'est parce que en ouvrant le score, on sait que ce lance-là, maintenant, normalement, les équipes le savent. On laisse la balle au Lensois. Les Lensois ont dû se réinventer leur football avec un jeu de possession. Ils ont eu du mal jusqu'à maintenant, ces Lensois, à trouver la faille avec ce jeu de possession. Là, t'entames le match superbement bien. Tu marques. Tu te dis bon bah voilà, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que Montpellier se livre un peu plus, et là bing, on va retrouver les Lensois dans leur dans leur jeu de prédilection avec les contre-attaques et tout ça, et derrière on l'a plus non plus, on a plus cette finition avec ce jeu de contre-attaque. Donc je comprends ta frustration parce que derrière tu t'attends à ce que le deuxième il arrive assez vite quoi, et ça y est presque le match est tué.
Et puis aussi il y a un moment il y a un moment, j'ai envie de dire, le milieu, pourquoi... le milieu, ils avancent plus et ils reculent plus. Maintenant, ils sont sur une ligne comme ça et en fait, ils ne bougent plus, ils s'imposent plus. Alors que moi, je me rappelle qu'à un moment, il y avait quand c'était Doucouré qui récupérait le ballon, hop, il a filé à Fofana qui devenait milieu offensif. Là, maintenant, ils ne le font plus. Alors, faut m'expliquer pourquoi. Au final, le pire, c'est que à chaque fois, on est en retard au milieu de terrain. C'est toujours les défenseurs qui ont tout pris dans la tronche. Et il y a un moment, le problème.
Est-ce que toi, Kevin, c'est un peu comme Daniel, ton collègue juste avant, la personne de Fofana, notamment là, tu trouves vraiment moins bien aussi, ou pas spécialement Fofana, lui, tu mets tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire Abdoul Samed aussi.
Non, Abdoul Samed aussi. Non, mais Abdoul Samed, et puis même le problème, c'est que j'ai trouvé, mais à un moment, je voyais Thomasson milieu à droite, mais vous êtes à 5 sur, enfin vous êtes à 2 sur la même ligne, mais ça ressemble à rien, quoi, je veux dire. Et c'est dommage parce que on n'est pas loin et je vois qu'on n'est pas devancé non plus. Franchement, c'est la période est compliquée. Et là, surtout que ce soir, en fait, c'était vraiment le match qui aurait pu leur remettre du gaz un peu pour la semaine, quoi. Parce que les gars, parce que sincèrement, ils vont se manger le foie. Les gars, ils étaient en train de mener, ils tenaient le truc et tout. Et là, ils vont venir, il n'y aura plus rien.
Pendant que j'entends parler Kevin, il me fait penser à quelque chose que je trouve intéressant, c'est-à-dire que ce soit Kevin ou tout à l'heure notre auditeur, nous disait Daniel, Thomasson a trop reculé et donc ils se sont retrouvés avec un milieu à 5. Mais parfois, t'as tendance à penser, et là les joueurs, quand ils se retrouvent plus dans une ligne pour justement annihiler les velléités de leurs adversaires, quand ils sont trop. Chacun compte sur l'autre. Ça va. On est en surnombre. Et exactement. Et tu remets la tâche sur l'autre. Tu te sens moins concerné. Et à partir de là, t'as cette espèce de, tu laisses l'espace à l'adversaire, quoi, parce que tout le monde se regarde. Il y a moins d'agressivité. Il y a moins de complémentarité. Ça arrive très souvent, ça.
Ouais. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Kevin. À l'instant, on parlait des occasions créées, du nombre de tirs. Alors, juste pour info, on va pas en faire trop, mais puisque tout à l'heure tu me demandais, Lionel, j'ai trouvé un site là où, alors tu vois, l'intérieur du pied de Sotoga là, où il y a un très très bel arrêt juste avant le corner, donc il est à 0,04, la tête derrière de Sotoka, elle est à 0,08 et par contre l'énorme occasion de Danso, elle est à 0,45. Donc 0,45, c'est énorme, c'est plus que le but de Fulgini. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est Gilbert qui va adorer ce passage, mais tout ça pour dire que il y a quand même des grosses occasions dans ce match. Même si vous faites pas un énorme match, même si dans le jeu, c'est pas flamboyant,
il y a des occasions, hein. Ouais,
il y a des occasions qui sont vraiment franches, elles sont très franches.
Oui, parce que c'est vrai que Kevin le Lensois, l'auditeur, tu soulignes surtout le milieu de terrain ce soir, mais est-ce que Lens finalement le problème ces dernières semaines, c'est pas un problème offensif? C'est-à-dire que Openda, qui n'a pas démarré titulaire ce soir, il est rapide, il est puissant, mais c'est toujours compliqué dans la finition. Est-ce qu'il manque pas, finalement, c'est toujours la même chose, mais depuis le début de saison, ce numéro 9 tueur?
Bah, en fait, le problème, c'est que avant, on avait le, celui qui est parti à Rennes, là.
Calimundo.
Et, enfin, non, franchement, on l'a
adoré. Depuis qu'il est à Rennes, il est plus tueur.
Et il fait plus rien. Et c'est dommage, parce qu'en fait, le problème, c'est que nos attaques, elles bougent beaucoup, en fait. Bon, ça tombe beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que le joueur qui est bien au milieu d'une organisation déjà faite, c'est compliqué. Donc, et le problème, c'est qu'on a recruté Buxa, qui a rien fait du tout. Openda, bon. Le problème d'Openda, c'est que j'ai peur que le boulard il monte trop vite aussi des fois. Hein. Regardez un peu certaines dépêches et compagnie. C'est un peu. Enfin, je pense qu'il faut aussi qu'il se calme, quoi. C'est lance, quoi. Et donc, il y a un moment. Non, il y a une remise en cause. Après, il y a aussi un problème, c'est que là, je vois, on essaie de passer sur les. En fait, pour marquer le but, on passe beaucoup par les centres, par les ballons de haut. Ouais. Alors qu'on a même. Enfin, Sotoka, il est grand, ok, mais. Enfin, je veux dire, c'est pas par la taille que j'aurais pris Montpellier. Alors qu'en plus, ce qui est dommage, c'est que le but qui vient, il est fait dans les petits espaces à plat. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on fait de moins en moins de jeux à plat dans les 20 derniers mètres. Parce qu'en fait, à mon avis,
tu peux passer par les côtés, il n'y a pas de souci.
Ils se sont dit, vas-y, on va passer par-dessus, mais.
Ouais, mais tu peux passer par les côtés en faisant, t'as parfaitement raison, t'es pas obligé de passer par les côtés de centrer par les côtés. Tu peux passer par les côtés, contourner la défense, les prendre à revers, amener le ballon jusqu'à la ligne de but et puis faire, le petit retrait qui tue toutes les défenses. Ça, tu peux. Et c'est vrai que ce soir, on l'a pas vu, ce jeu dans les petits espaces, avec des redoublements de passes et tout ça, on le voit plus, on le voyait beaucoup plus souvent, même dans les 20 mètres, dans les 20 dernier mètre. Là, on le voit beaucoup moins chez les Lensois. Mais attention, hein, quand même, il y a quand même une donne qu'il faut pas. Ça ne tient pas ce nul. Il ne tient pas non plus qu'aux Lensois. En face, il y a Montpellier qui a su redresser la barque. Et il y a aussi un gros changement, je trouve. Actuellement, c'est le gardien Lecomte. Hein. Ouais. Ce soir, c'est un grand artisan du match nul.
Alors, on va en parler dans un instant de Montpellier, Lyon, juste pour conclure. Donc, Lens ce soir, quatrième de Ligue 1, 50 points, autant que Monaco, 2 points de retard sur Marseille, mais ces deux clubs qui joueront demain et qui auront donc l'occasion de dispenser les Lensois qui ont une grosse semaine qui les attend avec le quart de finale de Coupe de France contre Nantes mercredi et le derby contre Lille samedi prochain. Kevin, merci beaucoup de nous avoir appelé ce soir.
Salut Kevin.
Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant et désolé de vous avoir coupé si
jamais. Bah, pas du tout, pas de problème. C'est l'after ici, Kevin, tu nous coupes quand tu veux, n'hésite pas. Hein. Des fois en plus, Kevin, c'est un peu long ce qu'il raconte, n'hésite pas à couper.
Et ouais. Très beau prénom d'ailleurs.
Allez, à bientôt, Kevin.
Merci beaucoup.
Bon week-end à toi.
Salut, Kevin.
Bye bye. 23h19, dans un instant, on parle de l'OL. 23h30, Marseille-Paris-Saint-Germain. OM-PSG J-1, mais on est en direct avec Christophe. Ce soir, supporter Montpellier 1, et je suis déçu parce qu'il n'y a pas de Christophe dans l'équipe de l'after. Salut, Christophe.
Oui, mais je vais faire l'affaire.
Ouais.
Salut, Christophe.
Bon, on peut t'appeler Gilbert juste pour le truc ou pas?
Allez, c'est parti.
Non, sois le bienvenu, Christophe. Supporter Montpellier 1?
Oui, supporter Montpellier 1. Et pour certains, j'écoutais avec attention, les nuls ressemblent à des défaites et pour d'autres, à des victoires.
Ouais.
Et donc, j'en fais partie. Et moi, je pense que pour rassurer notre ami Lensois, si on a un Montpellier qui donne autant d'intensité et d'engagement, bien qu'ils aient été dans la difficulté par période en deuxième mi-temps, pas grand monde va surclasser cette équipe de Montpellier. Et certains seront contents de venir faire un nul à la Mosson. On est tombé sur une équipe de Lens que moi j'ai trouvé performante par rapport à ce que j'ai vu à la Mosson cette année, par rapport au top 5. Donc en face, on a mis de l'engagement. On avait des bons joueurs au bon poste avec Benjamin Lecomte. Et même si c'était un Montpellier qui s'alignait sans Eli Wahi, sans TJ Savagnier et sans Stéphie Mavididi dès le début du match, on a vu quand même de quoi espérer faire une belle petite fin de saison pour nous.
Voilà. Et côté gardien, Lionel le soulignait, ouais. Lecomte, il t'a plu, Lyon?
Ah oui, oui, oui. Ah bah, aujourd'hui, le point du match nul, tu peux lui dire merci. Hein. Bon, bien sûr, c'est toute une équipe, mais il fait des arrêts déterminants. En plus, il a la baraka, quoi, parce que là où il peut pas être, eh ben, ça tape le poteau, ça tape la barre. C'est moi, je le trouve rayonnant. On voit déjà que bon, voilà, c'est pour moi, c'est un très bon recrutement parce que des fois, tu peux avoir des mésententes avec la défense, avec tout ça. Mais lui, il s'intègre, il connaît parfaitement le pays, il connaît le vestiaire, il connaît les joueurs, il connaît. Donc super, super. C'est bien qu'il soit, que Benjamin soit revenu. Moi je trouve que sur la défense, et même toute la ligne défensive, je les trouve beaucoup plus sécurisés depuis qu'il y a Benjamin derrière.
Et le retour de Derzakarian, Christophe, quand même, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire en peu de temps. 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul face au RC Lens. Là aussi, bonne pioche. Hein.
C'est remarquable comme il a réussi à resserrer ce bloc qui va faire le pressing ensemble. Des fois, on sent qu'il y a encore quelques
En première mi-temps, pas trop. Hein. Voilà. En première mi-temps, ils ont fait un pressing bizarre.
Oui, des fois, on sent quelques tiraillements, mais par période.
Ouais.
Ils ont réussi à aller récupérer des ballons hauts, y compris en première période, à partir de la 30e.
En deuxième, c'était mieux. Ouais.
Mais c'était bien mieux, je te rejoins. Et vraiment, je te rejoins sur la défense qui est beaucoup plus rassérénée, finalement, et certainement par la présence de Lecomte et l'organisation de Michel Derzakarian.
Oui. Et d'ailleurs, Christophe,
et puis aussi
rassérénée. Ouais, vas-y, Lio.
Non, puis aussi devant, parce que là c'est tout un bloc qui fait l'effort actuellement, c'est-à-dire que les défenseurs ils voient plus arriver des vagues comme ça pouvait arriver à un moment. T'as les milieux qui sont là, qui font les efforts, ils font pas des efforts. Alors quand il y a des efforts qui sont faits, on a vu un pressing en première mi-temps, je crois, c'est d'ailleurs ça. Les Lensois ont fait une contre-attaque, j'ai dit ça y est, ils prennent le deuxième, et puis en fin de compte non, mais c'était un pressing qui était mal organisé, les joueurs arriver les uns après les autres, alors que le pressing, quand t'en as un qui va presser, tout le monde est près de son joueur, et après t'empêches, voilà, tu mets une pression, comme c'est pour ça qu'on appelle un pressing, une pression sur de l'individuel, quoi, du côté du ballon. Ça a été il y a eu des moments où c'est pas bien passé, mais il y a eu beaucoup plus de moments maintenant où ça se passe vraiment bien, où c'est bien organisé, c'est bien soudé, c'est bien compact. Il y a beaucoup moins d'espace entre les lignes, et quand t'es défenseur ou quand tu défends, t'es content d'avoir des mecs qui défendent comme ça devant toi.
Montpellier 14e de Ligue 1, 27 points, c'est 8 de plus que 3, 17e et premier relégable. Merci Christophe.
Merci messieurs.
Merci Christophe.
Tu reviens quand tu veux dans l'after. Christophe, passe une bonne soirée. Bye bye. Quelques messages sur le direct studio à vous lire avant de parler de l'Olympique Lyonnais. Bruno écrit un bon point pour Montpellier qui a joué sans Savanier et a perdu rapidement Estève. Effectivement, Lens a perdu 2 points, mais il faut marquer. Théo écrit, ne sous-estimez pas l'absence de Wesley Saïd, un des meilleurs attaquants lensois. Vous continuez de commenter l'émission sur les applis RMC, RMC Sport, le direct studio, sur Twitter également. Le hashtag RMC Live. Lens tenu en échec ce soir. Lyon renoue avec la victoire. Succès à Angers cet après-midi, 3 buts à 1, but de Thiago Mendes, Amine Sarr, son premier avec l'OL, et Barcola Sima avait marqué pour Angers. Lyon au classement qui reste 8e en attendant bien sûr les autres matchs demain de cette 25e journée de Ligue 1, 8e à 6 points de Lille, 5e, 6 points de l'Europe. Écoutez ce que dit Laurent Blanc après ce match concernant cette course à l'Europe.
Vous savez, la semaine dernière contre Auxerre, à part 5 minutes où on a été dans le noir, on a fait un peu le même style de match qu'aujourd'hui. Hein. Après, Rennes et Lille, vous prenez leur effectif, ils jouent bien. Et puis surtout, ils n'ont pas fait un début de championnat aussi mauvais que Lyon. Donc vous avez un déficit de points. Il faut que vous fassiez un sans faute. On ne le fera pas. Et il faudrait qu'eux perdent des points. Et ils n'en perdent pas trop. Donc c'est compliqué.
Compliqué, mais pas impossible, cette course à l'Europe via le championnat pour Laurent Blanc. Bon, il y a le bilan comptable qui est pas mal ces dernières semaines malgré la rechute le week-end dernier. Mais vous avez pensé quoi de la prestation aujourd'hui contre Angers, le dernier de Ligue 1?
Moi, je trouve qu'il a tout dit là, le coach lyonnais. Je trouve que Laurent Blanc a été très juste dans son analyse en disant que la semaine dernière, ils ont pas été meilleurs ou moins bons face à Auxerre. Ils ont tout simplement été moyens, pour citer coach Courbis. Ils ont été moyens contre Auxerre. Ils ont été moyens, voire très moyens, voire carrément mauvais sur certaines phases en première période, avant d'être un peu meilleur en seconde. Et comme ils ont de la qualité individuelle, comme ils ont quand même de la fraîcheur devant, et comme ils ont surtout joué face à une équipe d'Angers, malheureusement, qui est quand même en grande difficulté, et bah ça leur a suffi pour remporter ce match. Et encore, ils ont réussi à se faire peur en fin de match. Donc voilà, c'est une équipe qui pour l'instant est en convalescence. Il a quand même trouvé et réussi à trouver, je pense, les mots, le discours. On a le premier but de Amin Sarr, qui, une fois qu'il aura trouvé sa place, pourra, je pense, être un joueur qui va aider l'Olympique Lyonnais, surtout en l'absence de Lacazette. Il y a le petit Ella Rouge qu'on a vu pour la première fois, même si ce n'est que les débuts, et on va pas du tout s'enflammer sur ce qu'on a vu, mais en tout cas, encore un jeune de l'Olympique Lyonnais qui
a fait une bonne entrée quand même.
Qui va avoir sa chance. Entrée. Donc voilà, je trouve que Laurent Blanc a été plutôt lucide. Il sait que ça va être très très compliqué de revenir sur les places européennes, mais sa fonction et de toute façon le fait qu'il soit une personne du haut niveau, eh bien il a envie de tout faire pour revenir quand même le plus haut possible au classement.
Lio, rapidement s'il te plaît, avec des prestations comme celle d'aujourd'hui contre Angers, tu vois toi les Lyonnais revenir à l'Europe?
Non, ils vont pas. Laurent l'a dit, ils perdront des points. Il dit malheureusement, nous aussi, on va en perdre. Et non, il y a pas assez de maîtrise pour moi pour l'instant. Et j'en ai jamais vu. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ça fait pratiquement deux ans ou trois ans que je ne vois plus de maîtrise de ces Lyonnais. Et je pense que cette maîtrise, elle n'est pas au niveau du football, de la valeur footballistique des joueurs, mais surtout au niveau du mental. Quand ces Lyonnais quand il y aura dans ce vestiaire une maîtrise mentale collective, oui, Lyon sera à même de faire des résultats, mais là ça restera, j'ai l'impression, tout le temps dans le scie. Comment remédier à ça? Honnêtement, faut être dans le vestiaire pour le savoir.
Lyon qui rejoue dès mardi contre Grenoble, quart de finale de Coupe de France, et puis en championnat ce sera la réception de Lorient dimanche prochain, dans 8 jours, pour la 26e journée de Ligue 1.
Après t'as Lille, tu vas à Lille.
Exactement, après tu vas à Lille avant de recevoir Nantes et d'aller à Paris, de recevoir Rennes, enfin il y a un gros calendrier, il y a Marseille qui arrivera.
Mon Dieu.
Tiens, je rappelle d'ailleurs que les podcasts club sont toujours dispo, l'After Lyon, l'After Paris, l'After Marseille, n'hésitez pas, vous pouvez aller écouter et télécharger tous ces podcasts. 23h27, l'After en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier. Marseille et Paris, justement, au programme dans un instant, J-1 avant ce choc de notre championnat, plus que jamais, le premier contre le deuxième, 5 points d'écart seulement entre les deux clubs. Quelques infos Christophe Galtier à vous donner. La direction du PSG doit-elle s'activer pour un plan B? On vous attend, supporters parisiens, au 32-16. Et puis débat tactique, Tudor doit-il continuer à faire du Tudor malgré le PSG de Mbappé demain soir? Là aussi, on vous attend, Marseille au 32-16, et puis dans le dernier quart d'heure, les drôles de dames. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h31, merci d'être là ce soir sur RMC, l'after en ce samedi soir avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier. Dans un quart d'heure, les drôles de dames, Julien Laurence sera là, la course au titre en Angleterre, Arsenal et City ont gagné, on sera également avec Fred Hermel, il y avait le derby madrilène ce soir et le vainqueur s'appelle Barcelone, puisque match nul entre les deux clubs, et le Barça qui joue demain aura l'occasion de faire un pas de plus vers le titre. Mais d'abord, à 23h32, dans 24 heures, Marseille va faire du bruit, peut-être comme jamais dans son histoire. Le Vélodrome en feu qui va battre son record d'affluence pour cette OM Paris Saint-Germain. Près de 66 000 spectateurs attendus. Dans un instant, débat tactique. Tudor doit-il faire du Tudor face au PSG de Kylian Mbappé? On vous attend au 32-16, supporters marseillais. Mais d'abord, les dernières infos Paris Saint-Germain. Info signée Fabrice Hawkins concernant Christophe Galtier. Galtier fragilisé depuis quelques semaines, depuis la défaite d'ailleurs contre l'Olympique de Marseille, depuis la défaite face au Bayern. Une défaite contre Lille le week-end dernier aurait même pu signifier la fin de l'aventure pour lui, voire même pour Luis Campos. Voici ce que ce soir on est en mesure de vous dévoiler. Alors pour la suite, les infos du jour, c'est qu'il n'y a pas énormément de prétendants derrière Christophe Galtier. Thomas Tuchel est l'un d'eux, comme RMC Sport vous l'avait révélé il y a quelques semaines. Il a toujours des partisans en interne à Paris, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui a depuis gagné la Ligue des Champions avec Chelsea bien sûr, mais lui ne voudrait pas venir en tant que pompier de service. Tuchel, il préférait arriver
éventuellement à l'été. Autre technicien apprécié par le Paris Saint-Germain, c'est Thiago Motta, l'ancien milieu de terrain, qui a lancé sa carrière d'entraîneur depuis, qui est apprécié et qui est resté très apprécié à Paris, mais son inexpérience au plus haut niveau est pour l'instant, en tant qu'entraîneur évidemment, un frein. En tout cas, l'info, c'est que si jamais Paris devait virer Galtier, avant la fin de saison, il n'y a pas de solution clé en main. Donc, voilà, pas de solution à l'heure actuelle. Est-ce que, selon vous, supporters parisiens, la direction du PSG doit s'activer pour trouver un plan B à Galtier, pour peut-être avant l'été prochain changer? On vous attend au 32-16. Kevin et Lionel, votre avis là-dessus? Est-ce qu'il faut, il faut bosser dès maintenant un futur très proche pour les dirigeants parisiens?
Il y a deux choses dans ta question, c'est-à-dire que il y a le fait que c'est toujours difficile de changer d'entraîneur quand t'es quand même premier au classement. Alors certes, il y a eu un début de 2023, je vais pas dire catastrophique, mais au moins mauvais. Et ensuite, tu as aussi le fait que il y a certaines équipes en Ligue des Champions sur les 10-15 dernières années, notamment Chelsea avec Thomas Tuchel, qui ont gagné la compétition en changeant d'entraîneur en cours de saison. Mmh. On se rappelle du changement Di Matteo, on se rappelle là de Thomas Tuchel, qui avait remplacé Frank Lampard.
Il y avait Zidane. Donc,
il y avait Zidane aussi. Donc oui, c'est possible de gagner la Ligue des Champions ou d'impulser une nouvelle énergie à un groupe et derrière faire un très très beau parcours en Coupe d'Europe. Maintenant, le Paris Saint-Germain en championnat reste premier, ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions. Ils n'avaient pas Kylian Mbappé au match aller ou très peu, et là ils vont le retrouver, que ce soit pour Marseille et surtout pour le Bayern Munich. Donc il va falloir voir. Après, moi je pense que changer comme ça en cours de saison, c'est toujours quand même compliqué. Et je comprends en tout cas tout à fait Thomas Tuchel ou un autre entraîneur qui ne voudrait pas arriver maintenant, mais qui préférerait, au cas où il y ait changement au PSG, arriver en fin de
saison. C'est ça, Kevin, c'est que oui, c'est possible. Bien sûr que ça se fait, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qui met à la place. Actuellement, il n'y a aucune personne, qui puisse reprendre le flambeau comme ça tout de suite dans 10-15 jours.
C'est ça, c'est les infos qu'on donne ce soir, c'est que justement derrière, à part la petite option Tourelle, la petite option Motta, il n'y a rien pour l'instant.
C'est ça. Donc changer pour changer, je vois pas l'utilité, honnêtement. Après, je pense que s'il y avait dû y avoir changement, il aurait fallu le faire avant le match du Bayern. Ça, c'est pour moi, c'est une évidence. Maintenant, il y a eu ce match du Bayern. Il y a eu aussi un autre match contre Lille où les Parisiens ont fait preuve de caractère. C'est ce dont Paris a besoin aussi, du caractère, du talent. Ils en ont tous. Après, ils ont aussi besoin de jeu, bien évidemment. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense que honnêtement, Galtier ira jusqu'à la fin de saison.
Sur Direct Studio, sur les applis RMC, RMC Sport, il y a Bruno qui écrit: impératif, changer Galtier. Il n'a plus la lucidité nécessaire pour gérer cet effectif. Il cherche toujours un nouveau système sans remettre en cause les joueurs qui sont défaillants. Vous verrez demain Donnarumma dans les buts, Kimpembe en défense, Verratti, Ruiz et Vitinha au milieu. Vous comprenez cet avis?
Oui, je le comprends, parce que c'est un peu mon reproche pour Galette. On a l'impression que il est complètement perdu. Il t'invente des systèmes maintenant, des trucs et tout ça pour revenir à un système dans lequel il était avant. Pourquoi ne pas rester quand t'es le PSG? Rester, ça veut dire qu'il a plus de certitude. Il est en train de se creuser la tête et pour obtenir le meilleur de son effectif. Alors il y a eu des blessés, il y a eu des malades, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Mais de là à changer tout. Si le PSG était fort, si le PSG était construit comme il fallait aujourd'hui, il peut y avoir des blessés, des malades et tout ça, mais reste toujours dans ta configuration. Pourquoi? Sinon, ça prouve que ton effectif, il n'est pas au niveau.
Christophe est là.
Enfin, moi, ça me paraît évident.
Christophe est là, supporter du Paris Saint-Germain. Je te redonne la parole après, Kevin. Salut, Christophe.
Salut, Christophe. Atterré de ce que j'entends. Atterré.
Pourquoi?
Vous me parlez de Tuchel, Tuchel, mais vous avez la mémoire courte, les gars. Sérieux.
On n'a jamais parlé de lui.
Tuchel à Paris, mais sérieux. 50% Lexomil, 50% Prozac. Non, mais vous êtes fou, quoi.
Alors, attends.
Le mec qui a fait jouer Marquinhos au milieu de terrain, vous étiez le premier à le critiquer. Maintenant, tout le monde voudrait Tuchel.
Ce qui me rend triste,
c'est qu'on a un entraîneur du Parc des Princes à Paris. et que ça a l'air de faire chier tout le monde.
Christophe, je te redonne la parole juste dans un instant, juste pour te préciser, ce qui est sur Tourelle aujourd'hui, personne ne réclame la venue de Tourelle. Les infos qu'on donne ce soir, ce sont des infos, ce sont pas des opinions sur Tourelle.
Mais moi, je veux pas de Tourelle, moi.
Oui, mais t'en veux pas, c'est ton choix, Christophe. Mais ce que je te dis, c'est que si jamais demain Galtier devait être débarqué, les deux options principales sont parce que les résultats sont pas très bons. Parce que les résultats sont pas très bons.
Il y a des mecs, et quand même, tu sais très bien que t'es mieux placé que nous pour savoir qu'il y a des mecs qui ont débarqué que vous ne vouliez pas forcément non plus, et on vous a pas demandé votre avis pour construire l'effectif ou le
Galette,
staff.
Mais Galette, il a pris 5-1 contre Barcelone. Et il s'est fait, il a pris une remontada. On est premier du championnat. On a 8 points d'avance demain et on peut encore battre le Bayern. Mais pourquoi on parle de Galtier dehors? Mais c'est quoi cette hérésie là? Vous voulez pas remettre en question les joueurs? Vous voulez pas remettre en question de virer par exemple Verratti?
Christophe, si tu me permets de te répondre, moi j'ai pas eu le temps de parler là juste avant que tu arrives. Moi j'allais dire que de toute façon le problème c'est pas Galtier, puisque si tu écoutes l'after régulièrement, ça fait 3 ans que on dit,
qu'on dit ici que
le Paris Saint-Germain. Attends Christophe, j'ai pas terminé. Que le Paris Saint-Germain.
Christophe, laisse terminer, je te rends la parole dans un instant.
Il y en a eu beaucoup.
Que le Paris Saint-Germain est pour l'instant, en tout cas, une équipe qui est inentraînable. Cet effectif, il est inentraînable parce que les statuts dépassent le statut de l'entraîneur, voire des fois le statut du club dans sa totalité. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, ensuite, il y a des choix qui peuvent être contestables, mais je ne sais pas si tu as entendu sur cette antenne, ni ce soir, ni ces derniers temps, qu'il fallait absolument reprendre Thomas Tuchel. Je ne sais pas qui est-ce que tu écoutes, mais en tout cas, c'est pas nous qui avons dit ça. Et derrière, bien sûr qu'il y a un problème au niveau des joueurs, mais le souci, c'est que les supporters parisiens, vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus.
Non, mais
je vais enchaîner sur Kevin. Je vais enchaîner sur Kevin.
Vas-y rapidement.
Si je te dis 12, je pourrais t'en dire 14 ou 15 ou 16. C'est parce que tout le monde ne reste pas à sa place dans ce club actuellement, et c'est un gros problème. C'est-à-dire que en fin de compte, si t'as des gens qui sont à Dubaï et qui veulent se faire un petit plaisir en s'offrant à jouer Messi, en s'offrant à Neymar, en s'offrant sans regarder la complémentarité d'une équipe, sans regarder tout ça, c'est parce que eux aussi se mettent à la place de l'entraîneur. Et donc des entraîneurs, il y en a beaucoup trop. Pareil pour les directeurs sportifs, pareil pour tous les entraîneurs qui sont passés. Personne, en fin de compte, le sportif ne peut ne peut pas s'exprimer.
Le mot de la fin.
Lionel, le vrai souci, il est là.
Non mais, Lionel, j'ai une question à te poser. On parle toujours du Paris Saint-Germain, d'accord? On est un club, on ne sait pas gérer, on est. Mais attendez, excusez-moi, mais Chelsea, par exemple, où vous allez prendre Pep Guardiola avec Manchester City, qu'est-ce qu'il a de titre de plus que nous? Ils ont mis 2 fois de plus de fric que nous. Pourquoi? Mais c'est quoi cette idée de toujours fracasser le PSG?
Ouais, Guardiola, il y a une identité de jeu, par exemple, Guardiola, que tu retrouves
mais
pas forcément avec Galtier.
Identité de jeu, t'as vu le match de merde qu'ils ont fait il y a 2 jours?
Ben, peu importe, l'identité de jeu est là quand même.
Mais c'est quoi l'identité de jeu?
Ah bah, je vais pas te tenir
la balle 85% et de rien foutre devant.
On sera pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave.
Je suis pas d'accord. Mais les mecs, je suis pas d'accord avec vous. Il y a pas d'identité de jeu à Manchester City.
Ah, mais tu peux ne pas être d'accord.
Il y a pas d'identité de jeu à Manchester City. Ok, bah
mais
écoute,
non,
écoute
désolé,
on sera pas d'accord,
pas d'accord.
Hein, on sera pas d'accord, ouais. Mais t'as le droit
mais
d'avoir
non,
ton avis.
Je suis pas d'accord. En Ligue des Champions, c'est des tocards.
D'accord.
Ouais. Christophe,
dis-nous ce qu'ils ont fait de plus que nous.
Bah Christophe.
Mais donne le budget de Manchester City et donne le budget de Paris. Les résultats en Ligue des Champions de Manchester City par rapport à nous. Mais vas-y, regarde.
Bah oui,
Christophe, tu es heureux de la prestation de tes joueurs, de tes entraîneurs, du PSG, de ton maillot, tu es heureux?
Très bien, je passe assez sur RMC pour vous dire que je suis le premier déçu de ce qui se passe. Mais excuse-moi de te dire que quand tu as, par exemple, un mec, mais je suis désolé de le dire, mais un mec comme Neymar.
Alors quelle est ta solution?
Attends, quelle est ta solution? On va s'arrêter là après, rapidement.
sont blessés à chaque fois au mois de février où on devrait avoir une équipe qui est en pleine bourre, et on a des énormes problèmes dans ce club.
Mais tu peux pas nous reprocher, Christophe,
tu peux pas nous reprocher à nous dans l'after de ne pas parler du problème de certains joueurs et de leurs absences éternelles quasiment.
Allez, mais moi je suis pas d'accord d'entendre qu'on veuille virer Galtier.
Écoute Christophe, écoute-moi deux secondes s'il te plaît. Christophe, personne ce soir n'a réclamé la tête de Galtier, juste qu'on te dise.
Mais bien sûr, écoute, je t'ai dit qu'il allait rester au moins jusqu'à la fin de l'année.
Deux secondes, laissez-moi terminer, juste vous dire. Christophe, je vais devoir te couper si tu me laisses pas parler. Christophe, si tu me laisses pas parler, je vais devoir te couper. J'ai pas envie de le faire. Juste, je veux juste te signaler que ce soir, les infos qu'on peut vous donner à RMC, c'est que si Galtier avait perdu contre Lille le week-end dernier, il aurait été tout proche de la sortie et qu'il l'est relativement proche en fonction des résultats des prochaines semaines.
Et les infos qu'on te donne, Christophe, c'est faux, faut en vouloir à ton club du Paris Saint-Germain peut-être si tu n'es pas d'accord, mais pas à nous, on vous donne juste les infos.
Merci Christophe, on l'entend, que ça fait longtemps que tu en veux, merci d'avoir été là en tout cas, et j'espère que tu vas passer un bon match pour toi demain face à l'Olympique de Marseille. Merci d'avoir été là Christophe. Il est 23h44, bon, le débat a été enflammé, je pense qu'il y a eu aussi de l'incompréhension avec Christophe qui a peut-être pas compris au début le voilà.
Il voulait défendre Galtier.
Il l'a fait, libre à lui de le faire, mais sauf que ce soir, en plus, personne n'a.
J'ai même dit qu'il resterait pour moi jusqu'à la fin de l'année.
Toutes les infos, le détail d'ailleurs, si vous voulez avoir l'avis total, toutes les infos sur rmcsport.fr, un article aujourd'hui. Fabrice Hawkins. L'Olympique de Marseille, les gars, avant les drôles de dames, je m'adresse à Najib qui produit l'émission ce soir. Est-ce qu'on fait une petite pub maintenant ou on enchaîne sur l'OM? On a pris du retard avec le Paris Saint-Germain. On fait une petite pause, les gars, une minute, et on se retrouve dans l'after avec Kevin Diaz. Avec Lionel Charbonnier, avec vous, hein, les Marseillais, on vous attend au 32-16. Voilà, je vous redonne l'intitulé du débat. Tudor, doit-il faire du Tudor face à Mbappé? Ce qui change tout, Mbappé n'était pas là la dernière fois, la profondeur, etc. Voilà, la question est claire, on vous attend au 32-16 si vous voulez débattre, et puis on sera avec les drôles de dames. Julien Laurent, c'est Fred Hermel, là tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
L'after en direct jusqu'à minuit sur RMC avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier dans quelques instants. Julien Laurence, Fred Hermel vont nous rejoindre pour les matchs du jour. La course au titre en Angleterre, le derby madrilène sans vainqueur ce soir entre le Real et l'Atlético. Mais à moins de 24 heures de ce Marseille-Paris Saint-Germain, on continue de débattre et de l'OM, hein, supporter marseillais, le 32-16. Débat tactique soulevé cet après-midi par Kevin Diaz. Tudor, qui séduit tant depuis le début de la saison, doit-il continuer à faire du Tudor pour le match de demain face au Paris Saint-Germain? Et la présence, qui change tout peut-être, de Kylian Mbappé. Supporter marseillais, on vous attend au 32-16. Justement, Kevin, ton avis là-dessus, est-ce que l'OM de demain, ça doit être le même que toutes les semaines depuis le début de saison?
Oui, je t'avoue que moi je suis très curieux de suivre ce match, notamment tactiquement, savoir est-ce que l'Olympique de Marseille va jouer toujours avec cette envie d'aller presser haut, d'asphyxier son adversaire, notamment dans le premier quart d'heure ou la première demi-heure. Et ça va être vraiment une des questions de ce match, parce que aujourd'hui tu as Kylian Mbappé qui a retrouvé peut-être pas 100%, mais au moins 90 à 95% de ses qualités. Et on sait que dans les phases de transition, ça va être très très dur pour les Marseillais de contenir l'international français. Donc il va falloir être très très fort. Alors il y a des solutions, il va falloir être très très fort, notamment sur le pressing, sur le premier ballon, empêcher la première relance, empêcher le jeu vers l'avant, encadrer toujours le porteur et avoir un œil sur Kylian Mbappé. Malheureusement, il y a aussi l'absence de Mbemba qui fait que tu n'as pas forcément la puissance physique ou la vitesse pour contenir Kylian Mbappé au démarrage notamment. Donc il y a quand même pas mal de points d'interrogation, et on sait que si le Paris Saint-Germain venait à ouvrir la marque, après il y aurait encore plus d'espace. Donc je suis quand même curieux de savoir, est-ce que Tudor va un petit peu s'adapter, hein. J'attends pas à ce qu'il fasse un bloc bas, mais est-ce qu'il va s'adapter avec un bloc pas forcément haut, mais un peu médian pour surprendre le Paris Saint-Germain? Je sais qu'il est quand même capable d'adaptation et surtout de remise en question d'un système ou d'ajustement tactique au cours d'un match. Mais vraiment, je suis curieux
mais
de voir
ce qu'il fait
match.
Déjà, Kevin. Les Marseillais qui jouent haut, qui vont presser, qui font un football total, c'est ce qu'ils font. Moi, c'est comme ça que je les vois.
Est-ce qu'il va le faire dès le départ du match, sachant que du côté du Paris Saint-Germain, il y a la présence d'une arme fatale du meilleur contre-attaquant?
Je pense, mais l'arme fatale, tu sais très bien, Kevin. Moi, je pense. Alors après, effectivement, t'as plusieurs solutions. C'est soit tu lui laisses pas d'espace dans la profondeur, c'est l'arme où il excelle. Mais si tu recules trop, on a vu dernier but qu'il a marqué dans les petits espaces, ça va être compliqué. Non, le meilleur moyen pour pas voir Mbappé, c'est qu'il n'ait pas de ballon, tu l'as dit. Donc s'il a pas de ballon, c'est-à-dire que tous les pourvoyeurs de balles, tous ceux qui sont en relation directe avec Mbappé, eh ben il faut les empêcher de donner des bons ballons, et pour empêcher les bonnes relances et tout ça. Et on sait en plus que en jouant haut et fort sur les défenseurs, sur empêcher cette première relance parisienne, ça les gêne terriblement. Ça serait bizarre que l'OM change sa tactique et ne fasse pas ça. Enfin, moi, j'attends qu'il y ait du tout d'or, ouais. J'attends l'OM avec son visage.
Mais je doute.
Parce que la dernière fois que l'OM, donc, bat Paris en Coupe de France, Mbappé n'était pas là.
Et puis, t'avais un Gigot monstrueux. T'avais un Samuel Gigot qui avait été énorme et un Mbemba toujours excellent.
Oui, parce que. On est d'accord, Lyo, que quand t'as un Kylian Mbappé avec sa vitesse, on a l'impression comme le disait Kevin, on a l'impression que c'est l'arme parfaite pour contrer l'équipe de Tudor, quoi. Kylian Mbappé.
C'est pas l'équipe de Tudor, hein. Mbappé, tu peux lui mettre n'importe qui en face, c'est un extraterrestre. Les gens se rendent pas compte comment c'est compliqué. Il y a que quand tu joues, j'ai entendu un joueur qui disait, mais je savais qu'il était très fort, mais quand je l'ai eu en face de moi, mais le mec, il est pas normal. Le mec, c'est pas que Marseille qui peut arrêter Mbappé. Tu sais que c'est compliqué de l'arrêter, mais pour moi la meilleure manière de l'arrêter, et on l'a vu des fois, il a été transparent dans certains matchs, mais quand est-ce qu'il a été transparent, ou alors on l'a vu que très très peu, on va le sortir du contexte du PSG, on va le mettre dans le contexte de l'équipe de France et de la finale où la France ne voyait pas le ballon, où la France était acculée contre les Argentins. Mbappé, on l'a jamais vu. Puis tout d'un coup, la France a commencé à sortir la tête de l'eau. Et là, on a commencé à envoyer Mbappé à l'utiliser avec ses armes. Mais pourquoi ? Parce que tout d'un coup, les Argentins ont reculé et les Français ont pu commencer à mettre un petit peu leur jeu en place, être un peu plus agressif et puis utiliser Mbappé. Mais Mbappé à lui tout seul, franchement, mais s'il n'a pas de ballon, il est là le truc. Alors bien sûr, c'est compliqué.
Mais il va toujours en avoir quelques-uns quand même.
Bien évidemment, il va en avoir.
Marseillais là sur le direct studio qui commente l'émission veulent du Tudor. Hein. Sissou écrit oui, Tudor doit faire du Tudor, il ne faut rien changer.
Il dit juste
changer la défense 1 contre 1 par une défense de zone dans le secteur de Mbappé. Et presser aussi les milieux qui donnent le ballon à Mbappé.
Voilà, exactement. Mais c'est ce que disait. Moi, je dis pas que je ne veux pas avoir du Tudor. Je sais qu'on va avoir du Tudor. Je suis très curieux de savoir comment ils vont animer leur défense en l'absence en plus de leur titulaire.
Je suis d'accord sur Mbappé, sur ce que t'as dit là dernièrement, tactiquement, le 1 contre 1, et puis dans la zone de Mbappé, avoir une compensation. C'est comme ça que le football a été réinventé.
Paul Lopez va être très important aussi.
Saki, hein.
Marseille-Paris Saint-Germain, c'est le dernier match de la 25e journée de Ligue 1, c'est demain soir à 20h45, et c'est une journée exceptionnelle sur RMC qui vous attend demain, dès 9h, dès les grandes gueules du sport, et ça ira au bout de la nuit, puisque l'after sera là, bien sûr, et la libre antenne qui revient pour ce match exceptionnel. Jusqu'à 1h du matin, demain soir. Avec vous tous, 23h52, encore quelques minutes à passer ensemble dans l'after ce soir avec Kevin, avec Lionel et avec nos drôles de dames, Julien Laurence et Fred Hermel. Salut les gars.
Hola chicos.
Salut à tous.
Messieurs. Salut messieurs.
Il s'est passé des choses chez vous. On va commencer par Julien. Cette course au titre, toujours aussi haletante et qui ne va pas bouger ce week-end puisque Arsenal et Manchester City ont gagné aujourd'hui. Pas du tout de la même manière, hein, Julien.
Non, même si ils ont tous les deux dominé leur adversaire, Arsenal n'a marqué qu'un seul but comparé aux 4 buts de City, mais ils ont très bien contrôlé la rencontre. Ils ont à l'extérieur, en plus à Leicester, ils ont laissé à Leicester que des miettes vraiment, puisque Leicester a un tir dans toute la rencontre qui est pas cadré en plus. Leur expected goal c'est de 0,02, donc ils avaient aucune chance de marquer en gros Leicester dans cette rencontre, et Arsenal a maîtrisé même s'ils ont marqué qu'un but. Pour Manchester City, on attendait une réaction forcément après le match nul contre Leipzig en Ligue des Champions et surtout le match nul contre Nottingham Forest le week-end dernier. Et on a vu très vite la réaction du champion de la machine, avec il menait 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Haaland avait marqué, Foden avait marqué, ou Alvarez avait déjà marqué. Ils ont fini par gagner 4-1. Ils auraient pu gagner plus. Ils auraient pu ne pas encaisser de but aussi. C'était un peu une promenade de santé pour City qui en avait besoin vraiment après les deux dernières contre-performances. Mais donc voilà, statu quo en tête du classement comme tu l'as dit, mais on on s'y attendait un petit peu quand même avant le début des matchs.
City qui a battu Bournemouth 4-1 avec une certaine identité de jeu quand même, il faut le dire. Julien, on revient dans un instant. Fred, derby madrilène ce soir, Real Atlético, pas de vainqueur. Enfin si, il y a quand même un vainqueur, hein. C'est le Barça.
Bah oui, parce que la fin de saison va pas être haletante. Oh, de toute façon, vous savez, un partout hein, ouais. Au Bernabéu entre les Merengues et les Colchoneros. Après, depuis l'élimination du Barça de la Ligue Europa jeudi, on savait que le Barça allait être champion. C'est-à-dire que voilà, le Barça n'a plus qu'un match par semaine, alors encore deux matchs de coupe, les demi-finales contre le Real, mais après ça sera un match par semaine jusqu'à la fin de la saison, alors que le Real Madrid a son huitième retour, et après c'est l'exploit à Liverpool, le Real Madrid va continuer en Ligue des Champions, donc c'était déjà très très mal parti. Et le Barça, s'il gagne demain soir à Almeria, le Barça aura 11 points d'avance sur le Real. Autant dire que c'est quasiment foutu. Petit derby, tactiquement réussi par Simeone. C'est-à-dire que les Colchoneros ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher, c'est-à-dire le match nul. Ils auraient pu l'emporter alors qu'ils étaient à 10 contre 11 avec un petit coup franc tiré par Griezmann. C'est merveilleux, et une tête de Jiménez. Mais franchement, la manière dont Griezmann met le ballon, je veux dire, c'est tellement dur à défendre, et en plus Jiménez saute bien. Et puis après le Real qui s'est découvert une nouvelle idole, Alvaro, 18 ans, hispano-uruguayen, mais qui joue dans les moins de 20 ans d'Uruguay, qui a fait son entrée l'autre jour à Liverpool. Il a fait une passe décisive, et puis là aujourd'hui il a mis une tête magnifique sur un corner. Voilà, le Real, la saison va continuer en Ligue des Champions et puis en Coupe du Roi, mais pour la Liga ça paraît quasiment impossible aujourd'hui.
Julien, Fred nous parlait du Real là, qui en a claqué 5 à Anfield. Liverpool qui ce soir n'arrive pas à battre Crystal Palace 0-0. Je veux dire, dans la perspective du 8e retour, il y a encore de l'espoir quand même à Liverpool. Qu'est-ce qui reste?
Je pense que même eux ils croient pas. Et ce soir a montré encore à quel point cette équipe est malade. Elle est malade de son inconstance, de son inconsistance aussi. Elle est malade du fait que ses stars et ses leaders, enfin qui devraient être ses leaders, parce qu'on avait parlé après l'humiliation contre le Real justement avec Fred du manque de leadership dans cette équipe. Mais quand ton meilleur joueur comme Mo Salah par exemple, rate une frappe. Enfin, il frappe sur la transversale, mais c'est un but qui marque tous les ans. Ce but-là, on l'a tellement vu marquer, ce genre de but où il la reprend comme ça, sans contrôle, en première intention, et qu'elle va soit dans la lucarne, soit petit filet opposé. Enfin voilà, là ça va sur la transversale. Ça montre à quel point rien ne va cette saison finalement pour Liverpool. Un 0-0 vraiment pourri, notamment en seconde période. Des erreurs défensives, Trent Alexander-Arnold qui offre presque deux buts à Mateta et à Crystal Palace. Donc ça aurait même pu être pire pour Liverpool. Klopp qui disait avant le match il va falloir faire des changements cet été, mais les changements, à un moment, il va falloir les faire maintenant, parce que sinon ils vont continuer cette saison médiocre. Là ils ont encore une chance infime peut-être d'accrocher la quatrième place. Ils sont à 7 points du quatrième, il y a beaucoup d'équipes devant eux, ils sont septième, mais voilà, sur une bonne série tu sais pas ce qui peut se passer. Ils peuvent mettre la pression sur les équipes qui sont devant eux, mais pour l'instant ça ressemble à rien.
Est-ce qu'on est vraiment surpris quand même, parce que bien sûr il y a eu la reconstruction nécessaire, est-ce qu'on en a parlé longtemps la saison dernière sur les gros salaires, sur Mané, Salah, qu'il fallait choisir un des deux, Firmino qui est aussi un peu sur la fin malheureusement, et il y a un moment c'était une fin de cycle de trois joueurs fantastiques qui avaient porté cette équipe offensivement, et dans cette première ligue en fait t'as pas le temps pour les reconstructions. Il y a la reconstruction d'un club comme Arsenal qui a duré quasiment 20 ans, parce que aujourd'hui la compétitivité est tellement grande que même une équipe comme Liverpool, même un staff et un entraîneur excellent comme Jurgen Klopp, ils ont besoin d'un peu de temps, parce que t'as pas le temps en fait. Voilà, les travaux, on te laisse pas le temps de faire les travaux. Tous les week-ends, tu prends des trains en face de toi, peu importe les équipes.
C'est ça, t'as raison. C'est vrai. Tu fais un très bon point. Et je pense aussi qu'en plus tu fais des erreurs dans ton recrutement. Par exemple, je dis pas forcément que tous les joueurs achetés par Liverpool sur les dernières saisons sont des erreurs, mais quand même dans la reconstruction naturelle, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais d'un effectif comme le leur, ou le renouvellement d'un effectif comme le leur, si tu te trompes, c'est chaud, quoi. Ouais. Et voilà. Et c'est pour ça. Mais il y a plein de choses qui font que ça va pas cette saison. Mais tu as raison. Ils ont pas le temps non plus.
Merci Julien. Merci. Très vite,
info rapide. Secondes, l'ancien Lillois Reinildo, titulaire avec l'Atlético, s'est fait les croisés, fin de saison.
Okay. Oh merde.
Merci Fredo. Et on se retrouve lundi, hein, 20h, 22h pour le
Drôle
de
Dame.
Comme tous les lundis soirs. Merci les gars, Julien et Fredo. Bonne soirée à vous, Kevin Diaz, Dieu Charbonnier. Merci. Bonne soirée à vous, les gars.
Salut, merci.
Dormez bien.
Salut à tous.
Demain, c'est une belle journée qui nous attend sur RMC qui va s'achever en apothéose. À 20h45, par l'affiche entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Journée spéciale sur RMC dès 9h et jusqu'à 1h du matin. Avec le retour de la libre antenne. Bonne nuit, l'équipe. Ciao.